Chapitre 6. Marguerite folle ? Cette pensée ne sortait plus de l'esprit d'Octave, et depuis 3 jours qu'il était au Conquet, il avait vainement cherché à calmer la douleur dont il avait été frappé en apprenant cette cruelle nouvelle. Marguerite folle ! Toute la journée, on le voyait errer sur la côte déserte, marchant de rocher en rocher, quelquefois sombre, muet, le regard fixe et le front penché, puis souvent s'arrêtant sur la grève pour prendre sa tête dans ses mains et pleurer. Il n'avait pas songé à raconter à Tanguy sa vie, son amour, la mort de sa mère qui le laissait libre. Il avait laissé Horace reconduire le vieux Breton à sa demeure et n'avait pas insisté pour y aller lui-même. Qui eût-il été faire ? Maintenant, Marguerite était perdue pour lui, perdue à jamais, sans espoir. La vue de la pauvre enfant dans sa pénible situation eut renouvelé toutes ses souffrances, sans y apporter la moindre remède. Il valait mieux la quitter sans la revoir, il valait mieux partir sans lui parler. D'ailleurs, il avait encore dans son cœur l'image ineffable de l'enfant heureuse qu'il avait connue et aimée. Il ne voulait pas attrister sa vie en apportant dans sa solitude le souvenir cruel de son malheur. C'est ainsi qu'il avait raisonné dès les premiers moments. Il espérait alors qu'Horace lui apporterait des nouvelles de Marguerite, que quelqu'un lui parlerait d'elle, qu'il saurait enfin d'une manière certaine que penser et que faire. Mais Horace n'avait point encore rencontré Marguerite. Pour complaire à Octave, il avait à diverses reprises demandé au père Tanguy à la voir. Sa qualité de médecin lui donnait le droit d'être indiscret et lui en imposait presque le devoir. Le père Tanguy avait repoussé toute avance à ce sujet. La solitude, prétendait-il, convenait surtout à l'état de sa fille. Elle vivait fort retirée, et ne voyait que son père, et souriait seulement le soir, quand la journée avait été belle. Le père Tanguy avait ajouté que sa santé propre était pour ainsi dire rétablie, qu'il n'oublierait jamais le service qu'Horace et Octave lui avaient rendu, mais qu'il désirait bien vivement ne pas les retenir dans le pays plus longtemps qui ne leur convenait à eux-mêmes. C'était une manière indirecte de les congédier. Mais Horace, par amitié pour Octave, n'y voulut point prendre garde. Ainsi, disait Octave, après que son ami l'avait entretenu longuement de l'intérieur de la ferme du père Tanguy, ainsi vous n'avez pu voir Marguerite. Mais impossible ! Et du moins vous a-t-il fait connaître le caractère particulier de sa folie ? Non, nullement. Vous ne lui avez peut-être pas demandé, mais si fait. Et qu'a-t-il répondu ? Ah, il a éludé. C'est étrange, disait Octave. C'est étrange, si l'on veut, ajoutait Horace, car enfin, cet homme ne veut pas vous voir. Je comprends cela jusqu'à un certain point, et vous aussi. Le plus sage, donc, est de nous en tenir là, mon ami, de faire notre valise et de prendre une autre direction. Partir sans la voir ? Mais elle ne vous reconnaîtra pas. Mais moi, Horace, moi, je la verrai. Je presserai sa main, j'entendrai encore une fois le son de sa voix. Dans l'expression de son regard, je retrouverai peut-être quelques rayures de son beau regard d'autrefois. Et que sait-on ? Dieu ne m'aurait-il pas envoyé ici pour la rendre à la raison et à la bourre ? Oh ! Les amoureux ont toujours d'excellentes raisons qui ne valent pas mieux que les vôtres, dit Horace en haussant les épaules. Mais n'êtes-vous pas de mon avis ? Pensez-vous que sa folie doit être éternelle ? C'est selon. N'avez-vous pas envie de le savoir ? Peut-être, oui. Mais vous êtes savant. Vous êtes bien bon. Et curieux, oh, je ne m'en cache pas. Eh bien, restez, mon ami, allez encore chez le père Tanguy. Pour moi, pour vous, pour elle aussi, ne parlons pas. Tentez encore de les rencontrer. Notre persévérance sera couronnée de succès. Et si vous pouvez la voir seulement 10 minutes, vous me l'avez dit, vous saurez si cette folie est incurable. Bon, d'accord, je vous le promets. Et tous les jours, c'était les mêmes instants de la part d'Octave et la même condescendance de celle d'Horace. Il est vrai de dire que ce dernier n'était peut-être pas complètement désintéressé dans la question. Le mystère dont on entourait Marguerite, les précautions inouïes que prenait le père pour n'en laisser approcher personne, pas même un médecin, tout cela avait éveillé sa curiosité au dernier point, et l'obligeance avec laquelle il semblait s'en servir les intérêts d'Octave était bien un peu mêlée d'entêtement pour son propre compte. Mais jusqu'alors, ses efforts avaient été vains, et rien ne pouvait faire supposer qu'il dût mener l'affaire à bonne fin. Un jour, Octave était sorti du Conquet, et tout en se promenant, il avait insensiblement gagné la plaine, et son instinct, plus que sa volonté, l'avait dirigé vers la demeure de Marguerite. C'était une petite habitation, placée sur une légère éminence qui dominait conséquemment toute la côte, et devait jouir de beaux spectacles qu'offre la mer par les jours de grande tempête. On a beaucoup exploré la Bretagne dans ces derniers temps, surtout. Les touristes ici ont donné rendez-vous de tous les points de la France, et cette terre éminemment pittoresque a été pendant quelques années presque aussi fréquentée que la Suisse ou l'Italie. Mais les touristes n'ont guère visité que les lieux dont les guides du voyageur leur indiquaient le nom et la position topographique. Ils ont parcouru les plaines de Carnac, les rives enchantées de l'Ellé, les montagnes d'Arès. Ils se sont arrêtés à Penmark, au Folkut, à Saint-Paul-de-Léon, et bien peu ont osé pousser leur course jusqu'aux abords de l'océan. Les côtes de Bretagne ont rarement été foulées par le pied du voyageur, et les historiens du pays eux-mêmes ont complètement négligé d'en faire mention. Que de ravissants paysages, que de puissantes fantaisies de la nature restent là, ignorées ou méconnues. Quel plus beau spectacle que cette longue suite d'énormes rochers que la mer, dans ses gigantesques caprices, a taillé avec un art qu'en virait le plus habile sculpteur. De Saint-Mathieu à Saint-Paul-de-Léon, le regard se lasse à admirer. Les glaciers de la Suisse n'ont pas de plus beaux aspects. Les bords de la Baltique n'offrent pas de plus curieux sujets d'étude. Il y aurait tout un livre à écrire sur cette partie de la Bretagne, livre coloré, attrayant, saisissant et dramatique. Il sera fait tôt ou tard. La ferme du vieux Tanguy était à une demi-lieue environ de la côte, mais par sa position, elle dominait, nous l'avons dit, toute cette plaine qui s'étend entre le Conquet et Saint-Mathieu. Un bouquet de petits arbres en formait une ceinture mouvante, et elle s'en dégageait coquettement pour laisser s'élever vers le ciel les petites tourelles à cul de lampe dont elle était ornée. Un vieux reste de la féodalité. Octave examinait un à un tous les détails de cette charmante habitation, et son cœur battait à se rompre quand la pensée lui venait que Marguerite était là, sans doute, et que d'un moment à l'autre il pouvait la voir. C'était la première fois qu'il lui arrivait de pousser ses excursions jusqu'à cet endroit, et il se sentait rougir et trembler comme un écolier pris en défaut. Mais le désir de voir Marguerite fut plus fort. Il s'assit au pied de l'un des arbres qui servent d'allée à l'habitation et attendit patiemment. Il était 6 heures environ. Le soleil se couchait à l'horizon. Il avait fait une journée magnifique. Il espérait la voir sortir, la rencontrer, lui parler. 1000 rêves insensés à la réalisation desquels il ne croyait pas. Mais il attendait, et cette attente suffisait à remplir son cœur d'une douce émotion. 1 heure se passa ainsi, sans qu'aucun accident vînt troubler sa solitude. Octave était désappointé, mais que pouvait-il faire? Se résigner et revenir le lendemain? Bon, c'était le parti le plus sage. Mais déjà, il se disposait à se lever quand un bruit de pas vint détourner son attention. Ce pouvait être Marguerite, et tout son être tressaillit. Mais cette joie dura peu, car dès qu'il se fut retourné, il aperçut un vieux mendiant qui venait à lui du bout de l'allée. Le vieux mendiant s'appuyait sur un bâton noueux et paraissait marcher avec beaucoup de peine. Octave eut pitié de lui et alla à sa rencontre. « La charité, s'il vous plaît, mon bon monsieur !» fit le vieillard dès qu'Octave fut à portée du chapeau qu'il tenait à la main, et avec cette voix chevrotante et plaintive qui semble appartenir exclusivement aux mendiants bretons. Octave laissa tomber une pièce blanche dans le chapeau qu'on lui tendait et se disposa à passer outre. Mais il s'arrêta presque aussitôt, comme poussé par une idée soudaine, et fit signe aux mendiants de s'approcher. Celui-ci accourut avec toute la prestesse d'un jeune homme et leva vers Octave sa tête et ses regards avides. « Pour vous servir, mon bon monsieur, dit-il en s'inclinant humblement, malgré mes 70 ans et mes infirmités, il y a bien des services que je puis encore rendre. Et me voilà prêt, mon bon monsieur. » Octave l'examina. Ce mendiant pouvait avoir 50 ans ou plus, malgré les 70 qu'il s'attribuait si généreusement. Il portait le costume déguenillé de l'emploi, une besace vide pendait à son côté et un bandeau couvrait une partie de sa figure. D'ailleurs, il avait l'air fort respectable et nul, si ce n'est Tanguy, n'eût pu reconnaître dans cet homme Éric, le mendiant de Saint-Jean-du-Doigt. C'était lui, cependant, toujours aussi vert, aussi vigoureux, jouant encore avec la même astuce et le même bonheur la comédie de la mendicité. Éric avait été obligé de fuir les environs de Saint-Jean-du-Doigt après le départ de Tanguy. On avait su ses calomnies et tout le canton avait cessé presque instantanément de lui faire l'aumône. Éric avait donc quitté le pays et s'était dirigé vers Saint-Mathieu, conservant au fond du cœur une haine implacable contre Tanguy et sa fille, dont il avait fait le malheur, mais qu'il accusait d'avoir fait le sien. Éric était une mauvaise nature. Aucun bienfait ne pouvait le ramener. Il s'était promis de se venger de Tanguy et rien n'aurait pu le faire renoncer à ses projets de vengeance. Sans s'en douter ou sans s'en inquiéter, il suivait cette pente sanglante qui mène tout droit au bagne. Du reste, le bagne est à Brest, à 2 pas de la côte, et l'on doit le dire, le voisinage d'une pareille institution est pernicieux pour les campagnes qui entourent cette ville. Non que nous entendions prétendre que le sens moral y soit plus perverti, que l'on y rencontre plus de criminels que dans tout autre lieu. Dieu nous garde d'exprimer une pareille pensée. Mais il nous semble que le bagne doit rayonner tristement sur les environs. Il s'échappe presque tous les jours un ou deux forçats de Brest, et ces forçats se répandent d'habitude dans les communes qui l'entourent. Quelquefois, ils y séjournent. C'est une dangereuse compagnie. Ce sont de terribles professeurs de vol et d'assassinat. Il ne faut pas laisser l'esprit populaire se familiariser avec ces épouvantails nécessaires. Il faut craindre qu'ils ne deviennent de sanglants soliveaux. Éric s'était vite formé à cette école. Le premier pas était fait. Il entra de plein pied dans cette voie terrible, et comme on l'a vu dans le chapitre précédent, il s'était assez bien acquitté de sa première affaire. Octave examinait donc Éric le mendiant et hésitait à l'interroger. Éric se trouvait gêné par cette espèce d'examen dont il était l'objet. Il craignait à chaque instant qu'Octave ne vînt à rappeler ses traits et à le reconnaître, et il ne convenait pas, dans le moment du moins, de renouveler connaissance. Il recommença donc ses propositions. Monsieur veut peut-être un guide pour visiter les environs, reprit-il avec le même ton paterne. Quoi, je ne suis pas aussi ingambe que je l'étais, je pourrais cependant lui être de quelque utilité. Et personne ne connaît la côte mieux que moi. Tel que vous me voyez, j'ai fait autrefois jusqu'à 20 lieues dans ma journée. C'est bien marché, murmura Octave. Mais c'est pas un service de cette nature que j'attends de vous, mon brave homme. Oh, il m'appelle brave homme, pensa Éric, il ne me reconnaît pas. En votre qualité de mendiant, poursuivit Octave, vous devez fréquenter toutes les fermes du pays, en connaître les habitants. Ce sont des renseignements que je veux avoir. Êtes-vous à même de me les donner? Mais tout ce qui pourra vous être agréable, répondit Éric. Et un sourire plein de malice, d'astuce et de satisfaction passa sur ses lèvres. Mais Octave était trop profondément préoccupé pour s'apercevoir d'un semblable détail. Voyez-vous, poursuivit Éric, voilà 20 ans bientôt que je suis dans le pays et je puis vous donner sur les familles qui demeurent les renseignements les plus circonstanciés. Les renseignements que je désire avoir, dit Octave, n'ont qu'une importance purement relative. Et d'ailleurs, la personne dont il s'agit n'habite guère cette côte que depuis 2 ans. Depuis 2 ans? Fit Éric comme s'il eût cherché à se rappeler. Bon, il est inutile de chercher longtemps, ajouta Octave. Je n'ai pas l'intérêt à cacher le nom de cette personne. Nous sommes sur sa propriété, et c'est Tanguy qu'elle s'appelle. Tanguy? Dit Éric en relevant la tête. Ah, vous le connaissez? Oh, beaucoup, mon bon monsieur. Il y a 2 ans qu'il est au pays, n'est-ce pas vrai? Oh, 2 ans, en effet. Et quelle réputation y a-t-il acquise? Bon, soldat respectable et digne fermier. Il n'y a qu'une voie là-dessus. Il vit fort retiré, cependant. Bon, il sort jamais, pour ainsi dire. Et qui fréquente-t-il? Personne. Mais comment le connaît-on alors? Éric remua la tête avec un faux air de finesse et de bonhomie. Mon bon monsieur, répondit-il, par le bien qu'il fait. Il en fait donc beaucoup? Oh, tout son avoir y passe, quoi. Octave hésita, puis il poursuivit. Mais dites-moi, mon brave homme, ajouta-t-il, À quoi, dans le pays, attribue-t-on cette sorte de solitude dans laquelle il se renferme? Bon, à ceci, à cela, répondit Eric. À tout et à rien. Vous savez, les uns disent blanc, les autres disent noir. Ceux qui sont plus près de la vérité rapportent cela à des malheurs que le bonhomme Tanguy a éprouvés dans le pays qu'il habitait auparavant. Mais quel malheur! Ben, sa fille. Ah, il a une enfant? Oh, un beau brin de fille. Vous l'avez vue comme je vous vois? Et elle est jeune, ou 17 ans approchant, et jolie, oh, comme un ange du bon Dieu. Et pourquoi semblez-vous mêler la fille à la cause des malheurs du père? Bon, c'est une histoire. On l'a dit folle, n'est-ce pas? Pour cela, mon bon monsieur, j'ai souvent entendu dire. Est-ce que vous ne le croiriez pas? Elle vit fort retirée, la pauvre enfant. Il est bien impossible de savoir ce qu'elle pense et ce qu'elle dit. Mais alors, pourquoi ces bruits? Ça, c'est le père Tanguy, un brave homme, voyez-vous, qui a quelquefois des idées singulières. Comment? Ben, mon avis à moi, que la pauvre jeune Marguerite n'est pas heureuse. Vous pensez donc que son père aurait poussé la cruauté jusqu'à la séparer des vivants et qu'elle ne serait pas folle? Ben, je le pense. Mais alors, ce serait d'une action généreuse que de l'enlever à cette prison inique dans laquelle on l'enferme, où on la tue lentement. Un sourire passa rapidement sur les lèvres d'Éric, et Octave se tut. Son cœur battait avec précipitation. Un espoir soudain s'était fait jour à travers ses résurrections. Et ses regards, fixement arrêtés sur les tourelles du manoir, cherchait à y découvrir celle qu'il aimait. Cependant, malgré l'assurance d'Éric, malgré le désir qu'il nourrissait dans son esprit, il ne pouvait encore croire à cette révélation. Pourquoi le vieux Tanguy, qui aimait tant sa fille, l'aurait-il ainsi cruellement condamné à la solitude, à la folie? Et pourquoi Marguerite se serait-elle résignée à jouer ce rôle dont elle devait souffrir? N'y avait-il pas là, au contraire, mille raisons de croire qu'il en était autrement? Et Octave lui-même, n'était-il pas fondé à penser que la douleur avait pu égarer la raison de Marguerite jusqu'à la folie? Octave retomba lourdement de la hauteur de ses espérances dans la réalité, et il sentit de nouveau son cœur se briser et la confiance s'en échapper. D'ailleurs, ce qui le confirma encore davantage dans cette pensée que le mendiant avait calomnié le père de Marguerite, c'est que lorsqu'il sortit de ses rêveries et releva la tête, le mendiant avait disparu, ne croyant pas devoir attendre de nouvelles interpellations. Octave poussa un profond soupir et reprit son chemin vers le Conquet. Il était profondément triste. Une amertume sans seconde emplissait sa poitrine. Un désespoir morne se lisait sur ses traits. Pauvre Marguerite, Marguerite folle, folle à cause de son amour. Il ne l'avait pas vue. Il lui faudrait repartir sans la voir. Il allait être contraint de s'éloigner pour toujours. Octave, comprenant qu'il valait mieux pour son repos, pour son bonheur, qu'il en fût ainsi. Et cependant, il ne pouvait se résigner à cette nécessité, et il marchait à pas lents dans l'allée de tilleul, espérant toujours vaguement que Dieu prendrait pitié de lui et mettrait fin à son atroce douleur. Tout à coup, il s'arrêta. Un bruit imperceptible s'était fait entendre, et Octave avait tressailli. Une fenêtre de l'une des tourelles venait de s'ouvrir, et l'amoureux jeune homme s'était retourné précipitamment. C'était Marguerite. Le jour n'avait pas fui encore. Il régnait de toutes parts un calme et un recueillement ineffables. Quelques rayons de soleil se jouaient encore sur les toits bleus du petit manoir. Puis c'était bien Marguerite. Mais comme elle avait pâli et maigri, ce n'était plus la blonde et charmante enfant rieuse qu'il avait connue et aimée. Maintenant, c'était la pâle et douce image d'Ophélia, pleurant son amour perdu, ou souriant tristement aux rêves de sa raison égarée. Octave demeura comme frappé de cette transformation, et ne pouvant avancer ni reculer, sans force, sans voix, la poitrine haletante, il laissa tomber sa tête dans ses mains et fondit en larmes. Et alors, tout son passé revint radieux, rire et danser autour de lui. Toute cette vie heureuse, enchantée, bénie de Dieu, passa devant lui, le jour à jour, heure à heure, avec ses fleurs et ses parfums, ses chants et ses fêtes. Il revit la vallée de Saint-Jean-du-Doigt, la ferme du père Tanguy, le chemin creux qu'il prenait pour y aller, le sentier rude et rocailleux qu'il suivait pour en revenir. Comme il était jeune et gai, comme il aimait. Et Marguerite, la pauvre sainte enfant, elle courait alors à travers la prairie, laissant flotter ses cheveux sur son dos. Quelle grâce exquise en ses gestes, quelle candeur sur son front, quelle touchante expression dans son regard. Dieu n'avait pas d'ange plus pur, jamais homme n'avait été aimé par un cœur plus naïf. Octave suivait un à un ces fantômes gracieux du passé, et les saluait les yeux pleins de larmes et le cœur désespéré. Tout était fini maintenant. Le vide s'était fait autour de lui. La solitude, une solitude froide et sans écho l'entourait, et ne voyait plus de refuge que dans la mort. Ainsi absorbé par les souvenirs du passé, Octave n'entendait pas la voix de Marguerite, qui, grâce au calme de la soirée, semblait flotter dans l'air comme une ravissante harmonie. Elle chantait une de ces légendes bretonnes qui sont si profondément imprégnées de la mélancolie du pays et de ses habitants, et sa voix était émue en racontant des malheurs dont elle semblait comprendre toute l'amertume. C'était l'héritière de Kéroulet. Chapitre 7. Marguerite avait cessé de chanter. Octave écoutait encore, suspendu à ses lèvres. La nuit était venue, laissant tomber de son front étoilé ses premières ombres transparentes, et bien que Marguerite eût disparu depuis quelques minutes, Octave ne pouvait se résoudre à abandonner la place. Un désir immodéré s'était emparé de lui. Il voulait la voir encore, lui parler, entendre cette voix qui lui avait rappelé tant de choses de son passé. Les fous, pensait-il, ont quelquefois des moments de lucidité. Alors ils se souviennent et ils retrouvent pour un instant seulement l'amour, la joie, l'espoir du passé. Marguerite doit être ainsi. Une heure passée à ses genoux suffirait à la rendre heureuse et à la faire souvenir. Il s'arracha de la place qu'il occupait et fit quelques pas vers la ferme. Il était plein d'hésitation et de terreur, mais une volonté plus forte que la sienne le poussait en avant. Il obéissait à cette impulsion sans en chercher la cause. Il ne connaissait pas la ferme, mais son cœur le dirigeait, et il arriva peu après à deux pas du verger, lequel n'était séparé de la voie publique que par une mauvaise clôture en branches de houx. Une émotion indicible s'empara de son esprit quand il posa le pied sur ce terrain. C'était là qu'habitait Marguerite. Ses lieux étaient pleins d'elle. Elle y venait quelquefois, sans doute. Les allées sablées qu'il foulait avaient été sans doute souvent foulées par ses pas. Une exaltation singulière saisit son cœur et il marcha devant lui à pas rapides et pressés. Combien il l'aimait en ce moment! Son amour s'était augmenté du mystère qui l'entourait, et plus encore peut-être de cette sympathique pitié qui s'adresse à tout être qui souffre. Octave se félicitait d'avoir surmonté ses craintes, d'avoir fait taire ses hésitations, et son pied s'appuyait ferme sur le sol. Qu'avait-il à craindre d'ailleurs? Quel était son crime? Il avait aimé Marguerite, et il l'aimait encore autant qu'un homme peut aimer une femme. Il avait fait de cet amour le seul rêve de sa vie. Il n'avait pas d'autre désir, pas d'autre ambition. Pourquoi aurait-il reculé? Il s'assit sur un tertre de gazon que le vent d'automne avait flétri, et prenant sa tête dans ses mains, il songea avec amertume à tout ce qu'il avait perdu. Les amants ont parfois d'inexplicables divinations. Octave pouvait croire que Marguerite reposait déjà, qu'elle était près de son père, qu'on ne laisserait pas sortir seule dans la campagne à pareille heure de nuit, et cependant, son cœur était plein d'espoir, et il attendait. Une demi-heure se passa de la sorte, une demi-heure pendant laquelle le plus léger doute ne vint pas même ébranler sa confiance. Et quand, après ce laps de temps écoulé, il releva la tête et promena autour de lui son regard incertain, il vit une forme pâle et blanche tourner l'allée et s'avancer de son côté. Avant qu'il l'eût reconnue, il avait deviné Marguerite. C'était elle, en effet. Marguerite seule, suivi seulement à quelque distance par un beau chien de race. Et Marguerite était-elle entraînée à cette heure et dans cet endroit par quelque attraction magnétique? Dieu seul le sait. Mais dès qu'elle vit Octave, elle s'arrêta comme effrayée et parut vouloir rebrousser chemin. Ce dernier remarqua ce mouvement et il se précipita à sa rencontre. « Marguerite !» lui cria-t-il d'une voix où tremblaient mille sentiments divers. « Marguerite, c'est moi, Octave !» Il y avait, dans le ton dont cet appel fut prononcé, quelque chose de si profondément déchirant que Marguerite s'arrêta au moment de s'éloigner et se retourna vers son amant. « Octave ? » dit-elle en croisant ses deux bras sur son cœur comme pour en comprimer les battements. « Octave, est-ce possible? Ne me trompez-vous pas ?» Octave était déjà près d'elle et serrait ses mains dans les siennes. « Moi, vous trompez !» dit-il dans tout l'enivrement de sa joie. « Oh, Marguerite, me reconnaissez-vous donc point? Ou ne m'aimez-vous donc plus ?»« Si, si, je vous reconnais. C'est bien vous que j'avais cru perdu. » Qui m'avait oublié, peut-être. » Et Marguerite regardait Octave avec un air de doux reproche, et Octave ne pouvait se lasser de la contempler. Ce dernier avait tout oublié, le vieux Tanguy, Horace, Éric le mendiant, et il remerciait Dieu dans toute l'effusion de son cœur d'avoir accordé à Marguerite assez de lucidité pour le reconnaître et l'aimer encore ne fût-ce qu'une seconde. « Si vous saviez, Marguerite, reprit-il après quelques minutes de contemplation muette, si vous saviez combien j'ai été malheureux depuis notre séparation, comme je me suis trouvé seul et triste et que de larmes amères j'ai versé sur notre amour perdu, Je vous ai cherché à la mort. Mais vous étiez parti et nul n'a pu me dire quelle route vous aviez suivie. Tenez, je vous aimais, moi, Marguerite, et plus d'une fois, la pensée du suicide a troublé mes nuits. Octave, interrompit la jeune fille avec un cri et en se serrant avec épouvante contre son amant. Et croyez-vous, poursuivit ce dernier, que je n'eusse pas préféré 100 fois la mort à cette existence que j'ai menée jusqu'à ce jour? J'étais si seul au monde, et je craignais de ne vous revoir jamais. Pauvre Marguerita, vous avez dû bien souffrir vous-même. Un sourire d'une ineffable douceur vint effleurer en ce moment les lèvres de la jeune fille. Ai-je souffert ? Répondit-elle en oubliant son beau regard sur le front d'Octave. Je ne me souviens plus. Vous étiez parti, j'étais seul aussi, comme vous. Comme vous, je pleurais un amour brisé, un passé perdu. L'avenir s'était fermé tout à coup devant mes regards. Il n'y avait plus rien autour de moi qu'une solitude profonde et triste. Mais que vous dirais-je, Octave ? J'avais confiance en Dieu, en moi, en vous-même. Je ne pouvais croire que vous m'oublieriez. J'espérais toujours et je vous attendais. Oh, bonne Marguerite ! Et pourquoi cela était-il ainsi ? Qui mettait cette foi dans mon cœur ? D'où vient que je n'ai pas désespéré ? Je l'ignore, oui, je l'ignore. Mais Dieu a béni mon courage, et aujourd'hui, à cette heure où je vous revois, il me semble que ces 2 années d'absence ont passé comme un rêve, et je cherche en vain à me rappeler si j'ai souffert et si j'ai pleuré. Octave ne répondit pas, mais son cœur se serra douloureusement. Les paroles de Marguerite le rappelaient à la réalité de la situation. Un mot avait suffi pour rouvrir l'abîme insondable qui les séparait désormais. Les 20 efforts que la jeune fille faisait pour réédifier ce passé qui venait de s'écouler sans laisser aucune trace dans son souvenir disaient assez l'état de son esprit. C'était un mal sans remède. La pauvre enfant était bien folle, folle comme Ophélia. Octave frissonna. Ainsi, reprit-il bientôt, en se contenant, vous m'avez pardonné. Vous en ai-je donc voulu? Et vous m'aimez toujours? Mais toujours, Octave. Il y eut un moment de silence. Octave luttait contre ses propres impressions et cherchait encore à se tromper lui-même. « Quand vous avez quitté Lamneur, dit-il presque aussitôt, c'est dans cette ferme que vous vous êtes venu habiter ?»«
Oui. »«
Vous sortiez rarement, m'a-t-on dit. »«
Mon père me le défendait. »«
Mais pourquoi cela ?»«
Je l'ignore. »«
Et l'idée ne vous est-elle jamais venue de lui demander la raison de cette claustration singulière ?»«
Non, jamais. »
Et que faisiez-vous donc?
J'attendais.
Octave se tut. Il ne savait plus que penser. Toutes ses réponses étaient faites d'un ton calme et parfaitement lucide. Elles ébranlaient ses convictions et rappelaient encore une fois le doute dans son esprit. Une heure s'écoula dans cet entretien. La lune montait à l'horizon et ses pâles rayons glissaient doucement sous les allées ombrageuses. Il régnait de tous côtés un silence plaintif que troublait seul le lointain murmure de l'océan sur les falaises. Octave et Marguerite étaient profondément émus. Enfin, l'heure du départ sonna. Marguerite avait à craindre que son absence ne fût remarquée. Son père était sévère. Il avait gardé rancune à Octave Alors il fallait se séparer. Elle se leva. Elle était belle et souriante. Son regard éclatait d'amour et de pudeur contenue. Elle tendit avec abandon ses deux mains à Octave. « Octave, lui dit-elle d'une voix émue, voulez-vous que je sois bien heureuse et que je vous aime comme au beau jour de notre passé ?»« Oh, parlez, parlez !» fit Octave en baisant les mains de Marguerite avec un fol élan. « Eh bien, reprit la jeune fille, allez demain trouver mon père et obtenez de lui votre pardon et le mien. » Et en disant ces mots, elle lui fit un geste d'adieu et disparut sous l'allée qui conduisait à la ferme. Une heure après, Octave regagnait son logis, la tête bouleversée, l'esprit plus irrésolu que jamais, et racontait à Horace ce qui venait de lui arriver. Horace sortait de chez Tanguy. Il paraissait fort soucieux quand Octave survint. Il écouta d'un air profondément attentif tout ce que ce dernier lui dit et finit par se renverser nonchalamment dans son fauteuil de cuir, les jambes croisées, le visage tourné vers le plafond. « Ainsi, lui dit-il en lâchant une bouffée de tabac de Havane, qui s'enfuit lentement en spirale bleue vers la fenêtre. « Ainsi, vous avez revu Marguerite. »« À l'instant, répondit Octave. « Alors, nous allons partir demain. »«
Comment ?
Mais n'était-ce point là votre intention ?»«
Et quoi ? Vous voudriez que je l'abandonne à ce moment où je sens de la retrouver ?»«
Mais qu'espérez-vous donc ?»
« Je ne sais.
On a vu peu de fous revenir à la raison.
Pensez-vous qu'il n'y ait point de remède ?»«
Oh, je le crains.
Mais Marguerite m'aimait. Si je la voyais souvent, peut-être réussirais-je. »
Horace remua la tête d'un air d'incrédulité. « Tenez, mon cher ami, lui dit-il. « Voulez-vous que je vous parle franchement ?»«
Parlez ?» dit Octave.
« Eh bien, je crains que vous n'éprouviez plus pour Marguerite que cette sympathique pitié que nous inspire naturellement tout être qui souffre. Vous avez aimé cette jeune fille avec l'ardeur d'une passion de 20 ans, et aujourd'hui que vous la retrouvez après 2 années d'une séparation cruelle, aujourd'hui qu'elle vous apparaît pâle et triste comme Ophélia, c'est plutôt votre imagination que votre cœur qui se frappe. Votre générosité s'exalte et vous vous laissez séduire par le côté chevaleresque de la mémoire que vous vous imposez. Croyez-moi, Octave, consultez-vous bien avant de vous engager plus avant dans cette voie. Songez que Marguerite est folle et qu'elle ne pourra peut-être jamais être rendue à la raison. Songez que son père vous accuse de tous ses malheurs. Songez enfin quelle existence serait la vôtre si vous persistiez dans votre résolution. Ne vaut-il pas mieux, dites, rentrer dans la vie ordinaire et faire ce que 1000 autres ont fait avant vous, oublier? Marguerite est perdue pour tous. Dieu seul peut faire ce miracle de vous la rendre telle que vous l'avez connue et que vous l'avez aimée. Laissez donc le père Tanguy dans cette solitude où il est venu s'enfermer avec sa fille. Reprenons notre bâton de voyage et hâtons-nous de rentrer à Paris, où l'on nous attend. » Octave avait écouté, sans la moindre observation. Quand Horace eut fini, il lui prit les mains et les serra avec affection. « Merci, lui dit-il d'un ton sérieux et grave. Merci, mon ami, de vos conseils. Je les accepte comme je le dois, mais je ne puis les suivre. L'amour que j'ai voué à Marguerite est né le jour où, pour la première fois, j'ai senti battre et tressaillir mon cœur. Cet amour ne finira qu'avec ma vie. Vous savez si je suis capable d'un attachement sérieux. J'ai eu le bonheur de vous en donner quelques preuves. Eh bien, à cette heure, je vous le dis, Horace, j'aime Marguerite comme je l'aimais il y a 2 années. Mon amour s'est augmenté même de cette sympathique pitié qui, comme vous le disiez, s'attache à toute femme qui souffre et qui pleure. Je ne pourrais aimer une autre femme, je sens que je n'aimerai jamais que Marguerite. Dans cette situation, voyez jusqu'à quel point vous m'aviez méconnu, et comme vous vous trompiez, dans cette situation, il m'est venu une pensée étrange, peut-être déraisonnable, folle, que le monde jugera diversement, mais à l'accomplissement de laquelle j'attacherai le bonheur de toute ma vie. Et cette pensée, interrompit Horace, qui changea tout à coup de ton, bien, c'est de demander la main de Marguerite à son père. Vous voulez l'épouser? Oui, mon ami. Une folle? Octave sourit. Dieu ne fait plus de miracles, répondit-il, mais il est un sentiment qui peut encore en faire. Lequel? L'amour.